Bonjour, bienvenue. C'est Perspective de médiation avec Christelle et moi-même. On parle aujourd'hui de l'importance du choix des mots. De quoi allons-nous parler, Christelle?
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Nous allons parler de l'importance du pouvoir des mots, de nos expressions. Ah oui, c'est un
Pouvoir des
vaste
mots.
sujet. Je ne sais plus où c'était écrit, au début était le verbe, n'est-ce pas?
Ça. Probablement la Bible ou quelque chose comme ça.
Bon, le testament, le début du testament de Jean, je
Hein?
crois, mais bon, au début était le verbe. Et c'est vrai que le verbe est créateur de réalité. Parce que je peux avoir une idée dans ma tête, tant que je ne la verbalise pas, tant que je ne la pose pas dans l'espace, elle n'a aucune chance de devenir une réalité. Et donc, voilà, le verbe, le mot, les expressions, du moment où ils sortent de notre bouche, prennent place, prennent forme. Peuvent créer la paix, peuvent créer la guerre, peuvent créer la cizanie. De toute façon, du moment où il y a un mot dans l'espace et un autre être humain qui l'entend, il y aura une réaction. Il y a quelque chose qui se passe.
Le mot, je crois que là tu nous donnes le titre du podcast, le mot devient pensée, devient réalité.
Oui, super.
Bien. En tout cas,
Très bien.
c'est passionnant, restez jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Perspective de médiation avec Christelle Schirmer et Pascal Guimperli. Bienvenue, salut Christelle.
Bonjour Pascal, tout va
Salut,
bien?
ça va bien, merci, ça me fait plaisir de te voir, même si c'est à distance.
Oui, moi aussi, hein, et je vois qu'il fait beau chez vous en Suisse aussi.
Absolument, oui. Aujourd'hui, il fait beau, oui. On va
Voilà.
essayer de transporter le soleil dans le podcast. tu avais proposé un thème pour aujourd'hui, c'est l'importance du choix des mots et du langage du médiateur et de la médiatrice. En quoi tu penses que c'est important?
Ben, je pense que c'est important de façon générale déjà. C'est valable pour tout le monde, mais je pense que c'est encore plus valable quand on est en médiation dans des situations qui sont parfois émotionnellement très impactantes pour des personnes en face de nous. Je trouve c'est très très important que le médiateur soit en clair avec les mots qu'il utilise, la façon dont il parle, sa voix. Mais voilà, j'ai proposé de parler de l'effet des mots parce que c'est un de mes très grands dadas. Et c'est facile à dire, mais après de changer des habitudes et de changer peut-être des automatismes que nous avons tous dans notre façon de parler, c'est beaucoup plus difficile.
Tout est linguiste, c'est juste.
À la base, je suis traductrice et donc je parle plusieurs langues. Je me suis toujours intéressée aux mots, d'où viennent les mots, comment on les utilise, comment la langue traduit la mentalité d'un peuple.
Ah, ça.
C'est super intéressant, hein? Bon, tu le vois, tu parles français, allemand et anglais, je suppose, donc. Voilà, il y a des choses qu'on peut dire dans une langue ou que c'est différent dans une autre. C'est déjà là, c'est passionnant. Donc voilà, je me suis intéressée ou je m'intéresse beaucoup à ces thématiques et j'avais écrit en différentes intermédiaires, des articles justement sous le titre de Langage conscient, langage gagnant.
Ah oui, intermédiaire, on la rappelle, la revue qu'on trouve le lien dans le descriptif. Oui, alors ça, vraiment, tu me touches au cœur avec ça. Il y a tout un univers, toute une culture qui vient avec la langue. Moi, une fois, j'ai entendu, c'était un podcast ou un article sur rien que l'importance du féminin et du masculin sont dans les langues. Selon le mot, parfois dans une langue, c'est féminin, dans l'autre, c'est masculin. Ils ont expliqué l'impact que ça a sur la pensée des gens, sur la culture, jusqu'au comportement. Ils ont, en tout cas, s'ils ont mis ça avec des exemples très illustratifs, j'aime.
Bah, par exemple, là, je pense à ça parce que dans mes formations en gestion de conflits, c'est quelque chose qui revient. Tu vois, il y a des langues où le vouvoiement n'existe pas. Par exemple, chez les gens de voyage ou chez les Ara en arabe, je
Ouais.
sais pas dans les langues asiatiques, Mais il n'y a pas de vouvoiement. Donc, parfois, ces gens, même s'ils vivent ici depuis longtemps, mais ils ont leur texte, c'est-à-dire dans leur construction, dans leur univers, dans leur tête, ça n'existe pas, cette différence. Et puis, ils viennent, ils tutoient les gens au guichet, dans les administrations, les professeurs et tout. Et nous, ça nous choque. On dit, c'est des gens irrespectueux et on se sent attaqué quelque part. Et en fait, c'est juste que dans leur conception du monde, cette différence entre tu et vous n'existe pas.
Typiquement là-dessus, tu es d'accord, si le vouvoiement n'existe pas et en fait ça change le rapport entre les gens.
Oui, ça veut dire qu'on est tous
Ouais.
égaux quelque part,
Ouais.
hein? Même s'il y a une personne qui a, tu as telle et telle position ou tu as telle et telle place, mais je te parle de moi à toi en tant qu'être humain. Et donc voilà, les compétences interculturelles, on en parlera un jour peut-être aussi dans une autre émission de l'importance de d'être tous un peu formés aux différences culturelles, parce que ça permet de mieux comprendre. Je ne vais pas dire ça permet d'excuser certains comportements, mais ça permet de comprendre certains comportements et les juger peut-être autrement.
Ouais, tout à fait. Je crois que les sciences des langues, ça, c'est toute une philosophie pour soi qui explique beaucoup de choses dans la vie. Ça structure la pensée. C'est pour ça que moi, je suis super convaincu de l'importance du langage inclusif, parce que si typiquement tu parles par exemple en masculin tout le temps, bah, ton cerveau il absorbe ça. Ça veut dire ton cerveau. Donc, après, je suis pas un neurologue pour expliquer plus loin que ça, mais je suis convaincu qu'après ton cerveau il construit quelque chose de masculin.
Ouais, et donne une
Ouais.
certaine dominance au masculin.
Voilà.
C'est ce que tu veux dire?
C'est ça, c'est ça.
Ouais.
Ok, ouais.
Donc, alors, je voudrais proposer un premier petit mot, okay.
Ah.
Mon mot fétiche auquel je fais très attention maintenant, c'est le petit mot on, O-N. Hein. Des fois, je prononce pas bien les on. On fait ceci, on y va, on va faire ceci, on va manger, on va partir. Alors, tout le monde parle comme ça aujourd'hui. Quand vous regardez dans les titres dans les magazines, le on, il est partout. Il est à la radio, il est à la télé,
Dans les
il
médiations,
était
je
à
suppose.
l'écrit, dans les médiations. Et pourquoi je n'aime pas ce petit mot? Parce que on est le mot déresponsabilisant par excellence.
C'est ça.
Hein?
Ouais.
Voilà. Ça veut dire que
Ça va dans l'air du
lorsque
temps.
c'est dans l'air du temps. Alors tout le monde se plaint, il n'y a plus personne qui est responsable. Oui, mais si tout le monde dit on, c'est-à-dire on, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est tous les autres. Mais voilà, je me déresponsabilise. Et lorsque je dis je vais faire ceci ou je pense cela ou nous allons commencer, c'est-à-dire je m'inclus, certes. Certes, il y a des moments où le on, il a sa raison d'être. Hein. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qu'il faut régler de
Oui,
la
bien sûr.
carte. Hein. Mais de le mettre à toutes les sauces, c'est vraiment néfaste. Vraiment, je pense que c'est néfaste parce que ça prépare à une espèce de pensée, enfin, je ne vais pas dire universelle, mais par exemple, je vais donner un exemple de la vie de tous les jours des personnes qui travaillent dans les EHPAD. Et qui vont
Dans les...
donner dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, hein, ou à l'hôpital. Et lorsqu'ils vont donner à manger à un patient qui ne peut pas manger tout seul, et qui lui disent, on va manger, on va ouvrir la bouche, ou on va prendre la cuillère. Ben, on, ça veut dire nous, ça veut dire que cette personne ne fait pas la différence entre moi et vous. Hein? Et ces personnes vont se plaindre à la fin de la journée qu'ils sont complètement épuisés. Mais si toute la journée, dans tout ce qu'ils font avec leurs patients, ils s'incluent dedans, comme si eux-mêmes étaient concernés par ce on va faire, on va se laver, on va se balader, on va se lever, on va faire les lits. Mais c'est normal qu'à la fin de la journée, ils sont épuisés. Et la personne à qui ça s'adresse, ben, elle se sent pas prise en considération parce qu'elle se sent pas, en tant qu'individu, reconnue. Et je pense qu'en médiation, ça peut être la même chose. Hein? Lorsque le
Sans doute.
médiateur, parce qu'en plus, nous, en tant que médiateurs, Demandons à nos milliers de parler jeu, n'est-ce pas?
Absolument. Ouais. Ça va dans la même logique. Je viens de penser à ça. Quand on dit un accord doit être smart, smart dans le sens spécifique, mesurable, etc. Ben, c'est la même chose. On dit on lance telle ou telle procédure, par exemple. Ben, tu peux être quasi sûr qu'il y a personne qui va la lancer. Mais si tu dis OK, on sait qui en tant que médiateur,
Ben oui, c'est
ben
bien.
voilà.
On va s'appeler, hein? On s'appelle, Pascal.
Ouais, on constate, je pense parfois on dit ça exprès pour justement ne
Ne
pas,
pas appeler,
pas de
ne
ou
pas
parce
être.
que c'est pas qu'on veut pas, mais on n'est pas sûr est-ce que j'ai le temps ou pas. Je dis on comme ça, je suis tranquille si je fais pas. Voilà.
Oui, on va manger ensemble un jour. Enfin, voilà, ce fichu hein,
C'est pas
qu'on
la même
trouve.
chose comme je vais t'appeler pour qu'on puisse aller manger
Et
ensemble.
ben voilà. Exactement. Et donc voilà, ce on, il est déresponsabilisant et il ne donne pas la reconnaissance nécessaire à l'autre. Hein. Et je suis aussi si sensible à ça, ça vient aussi de l'histoire allemande, parce qu'en allemand, nous avions ce petit mot man, hein. Man tut das nicht, hein. Et on ne fait pas ceci, on ne parle pas comme ça, etc. Je crois que dans le vocabulaire nazi, qui a essayé de, comment dire, d'éliminer la pensée individuelle des personnes, ce genre d'expression était très utilisé. Et j'ai lu une fois une phrase de, je ne sais plus qui, on l'attribue peut-être à Göring, mais c'est discuté. Il a dit, nous ne voulons pas que les gens adhèrent à nos idées. Nous voulons qu'ils ne puissent plus penser autrement qu'à travers nos idées.
Ah ouais,
Et
d'accord.
cette phrase
Ça
est
passe par le
terrible.
langage.
Et ça passe par le langage. C'est-à-dire par la création de mots, par la création de nouveaux termes qui changent. Et actuellement, nous assistons à ça aussi, hein. Regarde, quand j'étais petite, les impérialistes, c'était les Américains et l'Occident.
Toujours,
Aujourd'hui.
non? Non?
Je crois qu'aujourd'hui, on
Oui,
utilise beaucoup le
il y en
mot.
a en plus. Comment?
Aujourd'hui, on utilise ça beaucoup pour parler de, bah, de Poutine
Ah oui, d'accord.
hein?
Il y en a en plus, mais les autres, ils sont un
Non,
peu
mais
partout,
après,
quoi.
c'est eux qui parlaient d'impérialistes. Voilà. Donc, il y a des mots qui changent de sens, etc. Et je pense qu'il faut être très vigilant aux mots et la manière, tous les néologismes, ça dit quelque chose de notre société, ça dit quelque chose de notre pensée. Et aujourd'hui, en répétant des mots dans la presse, dans les médias et tout, voilà, la pensée peut vraiment être dirigée de manière très persuasif et très subversif dans une direction. En tant que médiateur, nous le savons, hein. Nous savons que si nous posons telle et telle question de telle et telle manière, nous allons avoir certaines réactions parfois ou certaines réponses. Quelque part, le médiateur, même s'il est neutre, il utilise quand même aussi ses outils pour canaliser et pour apaiser. C'est pour ça, bon, je le vois souvent dans les avec des jeunes médiateurs hein, qui n'ont pas encore cette maîtrise, mais qui relancent le feu hein, quand des métiers voilà, ils ont passé une phase de turbulence et puis ils pourront aller vers quelque chose d'apaisé et puis le médiateur il va dire une phrase du style, oui, je vois que c'est très difficile pour vous. Oups, et ça répare. Le mot.
Les mots dirigent la pensée.
Oui, et les réactions, hein?
C'est
C'est-à-dire
comme
que,
c'est très connu, mais je t'ai dit, pense pas à un éléphant blanc.
mais voilà. Là, on est dans les négations. Pourquoi est-il souvent contre-productif d'utiliser une négation? Tu sais pourquoi?
Pourquoi est-il utile d'utiliser négation?
Non, inutile,
Ah, inutile.
non, pas inutile, mais contre-productif.
Parce qu'on peut tout dire en positif, hein. Enfin, parce que ça fait une pensée négative, alors qu'on pourrait dire pas la même chose, mais ce qu'on souhaite. Au lieu de dire ce qu'on souhaite pas, on peut dire ce qu'on souhaite et on est tout de suite dans une logique. Non, c'est pas ça?
C'est aussi
Ah,
ça,
tiens.
mais avec les neurosciences aujourd'hui, bah, on découvre quand même beaucoup de choses. Enfin, notre cerveau, dans un premier temps, n'entend pas la négation.
Ça veut dire
Ah.
on n'est pas capable neurologiquement ou
Exactement,
ah
parce
ouais.
que ça demande quand même un effort. Je veux dire, si tu as
C'est compliqué.
Notre, comment dire, tout en nous a été construit dans un but de survie. Et si tu as un tigre à dents de sabre derrière toi qui veut bondir sur toi, tu ne vas pas penser, je ne dois pas rester en place. Hein? Tu vas penser, cours. Et donc, notre cerveau est formaté au verbe d'action. Comment veux-tu qu'un petit enfant de 1 an et demi fasse l'abstraction de ne cours pas, que ne cours pas veut dire le contraire que ce qu'il entend, courir. Hein?
Oui, on
C'est quand
entend
même.
l'action, oui, c'est juste.
Hein?
Ouais,
Ou
ok.
voilà,
Une réflexion de plus, tout à fait.
voilà, c'est-à-dire nous en tant qu'adultes, nous savons par réflexe que ne cours pas veut dire arrête-toi, mais un petit enfant ne le sait pas. Et quand je dis. Quand je dis, par exemple, à un médier, n'hésitez pas à demander une pause. Déjà, hésiter, qui a envie d'hésiter? Hésiter, c'est pas quelque chose d'agréable, hein? Donc, le mot qui nous assaillit, c'est hésiter. Et le ne pas, tu vois, ça veut dire sentez-vous libre de. Hein, c'est ce que tu dis. On peut dire les choses positivement. On peut dire les choses positivement. Nous pouvons dire les choses.
C'est qui, Christelle? C'est qui,
Oui.
hein? Oh, là, ça
C'est.
s'applique. Là, on peut laisser passer.
Ouais, mais c'est une sacrée gymnastique. C'est de la rééducation langagière. C'est très, très difficile, mais c'est très amusant. Et il faut commencer par observer comment parlent les gens autour de nous, déjà pour se rendre compte. Et après, s'observer soi-même. Et là, il y a parfois des surprises extraordinaires. Donc voilà, si je pense, je ne veux pas me réveiller en retard ou je ne dois pas être en retard, etc., je formate mon cerveau à ce retard. Hein, ou voilà, au lieu de dire je veux être à l'heure, ça va bien se passer. Hein, bon, et tout ça en médiation, je pense qu'il y a aussi pas mal, beaucoup d'expressions qui peuvent être corrigés, peut-être.
Oui, ça, j'ai vu ça. J'ai fait une fois un mini bout de cours sur la PNL. Et alors, je ne me souviens plus des différents concepts et des trucs, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé en tête, c'est l'idée de ne pas dire c'est s'éloigner d'eux, de ne pas dire ce qu'on ne veut pas, mais de dire aller vers. C'est tu
Oui.
dis qu'est-ce que je veux et tu ne dis pas qu'est-ce que je ne veux pas. Et
Oui.
ça m'a
Bah.
beaucoup marqué et ça, j'ai gardé ça.
Oui, c'est souvent nous disons le contraire de ce que nous voulons, en pensant que ça va nous amener dans la bonne direction, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein? Et comme je disais tout à l'heure, de utiliser des expressions comme compliquées, comme problème, comme difficile, etc. Nous pensons en images, ça veut dire que quand nous parlons, ça, c'est une onde, hein, quelque chose, une vibration qui vient dans notre oreille, qui se transforme en image et qui est liée à une émotion. Quelque chose qui est difficile, c'est toujours lié à une émotion désagréable. Un problème, c'est toujours lié à un obstacle, à quelque chose de difficile à surmonter, hein. Et même si c'est que des millisecondes, hein, ça crée une impulsion et ça crée du stress.
C'est
Et
parce que
donc,
c'est ça, je sais pas si tu sais, mais c'est notre cerveau, il capte, il catégorise des mots avec des émotions, c'est ça? Et puis si tu actives le mot, tu actives l'émotion en même temps.
oui, c'est
C'est ça.
ça. Ça, c'est des millisecondes, hein. Mais ça a un effet. Par exemple, les chercheurs, et je crois que c'est d'ailleurs en Allemagne, ils ont constaté que des mots violents allume ou active dans notre cerveau les mêmes zones que comme si on nous pique avec une aiguille,
Ah
c'est-à-dire
ouais.
une zone de douleur.
OK.
Hein? C'est-à-dire, je te pique avec une aiguille, tu vas avoir un petit endroit dans ton cerveau qui va s'allumer. Si je dis des mots comme guerre, attentat, violence, brutalité, enfin, toute une panoplie, explosion, quand la personne entend ce mot dans un et aussi celle qui le dit, hein, dans le cerveau s'allume cette même zone de douleur. Hein? Et donc, nous pouvons, à travers le choix de nos mots, à travers notre façon de dire les choses, ou nous faire du bien, ou nous faire du mal. Donc, je disais, dans la vie de tous les jours, c'est valable, mais je trouve qu'en médiation, nous devons être très, très, très vigilants à ça. Je cite souvent l'exemple, là, à propos des mots violents. En France, nous avons cette fâcheuse habitude où beaucoup de personnes ont une habitude de dire « Ah, ce gâteau au chocolat, c'était une… » Est-ce qu'en Suisse, on dit ça?
Une régale, non? Non, non, c'est pas ça.
Non, ils disent
Dans le temps
ici,
négatif, tu dis.
ils disent « Ce
Vas-y.
gâteau au chocolat était une tuerie.
Ah oui, ok, ouais, ça on dit aussi,
Ça,
ouais.
voilà. Et personnellement, je trouve ça tellement horrible que
Moi,
je
ça
me
m'a fait
suis.
bizarre, ouais, quoi, pardon.
Hein?
Quand je suis venu en Suisse romande, quand j'étais exposé à l'espace francophone, ça m'a fait bizarre aussi, pourquoi on appelle ça une
Hein?
tuerie, quoi.
Alors, tout le monde dit, mais on sait ce que ça veut dire. Mais moi, sachant que ça allume, et je me suis entraînée, et là, je choque les gens parce qu'ils ne comprennent pas. Et je dis, ah oui, c'était la promenade de Nice ou c'était Charlie Hebdo? Et là, il me regarde avec des grands yeux, il me dit, pourquoi tu dis ça? Et je dis, ben, parce que ça, c'est des tueries. En ce moment, nous sommes entourés de tueries, hein, en regardant la guerre, en regardant les guerres et tout. Pourquoi ce gâteau de chocolat qui est délicieux? Quand on dit délicieux, on peut faire
Oh,
la
c'est
dégustation.
beau
Tu vois, quand
là-bas.
je dis délicieux, tout de suite, on a l'eau qui monte à la bouche et nous avons des
Ah
jolis
oui, t'as
mots
mal,
pour
j'ai
dire les
bloqué.
choses là. Hein, voilà, tu vois. Donc, pourquoi privons-nous déjà dans ce monde de brut et de brutalité, pourquoi nous privons du plaisir d'utiliser des mots qui peuvent nous faire du bien?
Ça serait passionnant de voir d'où ça vient. Moi, j'écoute parfois un podcast en suisse allemand sur la langue suisse allemande où il explique l'origine des mots. Et c'est assez fascinant parfois.
Ah oui, parfois ça vient de très loin.
Il y a un autre mot auquel je pense là, c'est le mot mais. Tu vois, qu'on peut mais, parce que mais aussi, c'est dans la même optique, c'est mais c'est négatif. Mais c'est une opposition, c'est une. C'est comme, ouais, on contre quelque chose, tu dis ça, mais tu vois, c'est un opposé. Et tu peux, je pense, 80%, peut-être 90% des mais, tu peux les remplacer par des et.
Oui, je crois que ça c'est en PNL aussi, hein,
Ah, peut-être, ça, c'est
ouais,
possible, ouais.
je oui, j'ai
Bon, du coup, il y a un deuxième truc que j'ai gardé.
que tu as gardé, oui, de remplacer les mais qui peuvent être comme un ressenti comme un rejet de quelque chose,
Là,
mais
c'était un
c'est
bon
un
cours,
élément.
j'ai maintenu plein de trucs. Il faut que je retrouve ce cours, je vais le recommander.
Ouais, ben oui, oui, de remplacer par et il y a aussi la façon de dire non sans dire non, parce que le non aussi c'est un mot qui souvent quand nous disons non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est perçu comme un non, je ne le fais pas. Le non, c'est, regarde, N ou N, nous pouvons le lire de droite à gauche et de gauche à droite. C'est quelque
Ouais.
chose qui est très, très enfermant, hein.
Ouais.
C'est, oups. Et comment dire non sans dire non?
Alors là, tu dois m'aider.
Je vais t'aider en prenant tout simplement l'exemple de la personne à qui j'ai demandé d'assister à notre podcast aujourd'hui et qui m'a envoyé un très joli mot en me disant, mais Christelle, j'aurais adoré participer à votre podcast samedi prochain. Malheureusement, je ne suis pas disponible.
Ok,
Tu vois, elle m'a
ouais.
dit non, mais d'une manière qui était, ben, qui était très élégante et très apaisante, et je me suis pas sentie rejetée.
Ouais, tout à fait.
Et voilà.
Elle viendra d'ailleurs, hein. C'est pas annulé, c'est repoussé.
Voilà,
On dit pas qui c'est.
j'espère, on ne dit pas qui c'est, on laisse la surprise. Donc voilà, il y a des façons de dire, oui, je comprends que c'est important, malheureusement, je ne peux pas, voilà, on peut après trouver toutes les explications, excuses, ou pas d'excuses, ou pas d'explications possibles, mais nous ne sommes pas obligés, à travers nos mots, de brusquer les personnes en face de nous.
Oui.
Voilà.
Tu sais, il y a ce qui m'a beaucoup frappé. J'avais fait un podcast avec Olivier Chamberloir qui fait la médiation transformative.
Oui.
Et lui m'a dit, dans médiation transformative, tu amplifies même le négatif.
Tout à fait.
Si les parties sont fâchées, enfin, t'es pas fâché, mais tu vas pas essayer d'adoucir, tu vas être au même niveau. Et c'est assez particulier pour les médiateurs et médiatrices qui ont
Oui, mais
d'autres
là,
pratiques.
c'est, j'adore, moi, je fais des formations de la médiation transformative et je suis une grande adepte parce que je trouve qu'elle donne beaucoup plus de liberté aux médiés. Et il est vrai qu'à ce moment-là, mais c'est pas le médiateur qui parle de ces mots-là. Là, quand je parle des mots à utiliser, c'est le médiateur qui fait ses interventions, n'est-ce pas? En transformative, lorsque nous faisons ces réflexions, nous faisons du reflet. C'est-à-dire, en fait, nous faisons le miroir pour servir de miroir à la personne qui parle. Hein? Ça veut dire, ce n'est pas le choix de mes mots, ce n'est pas mon intervention, mais je reflète l'intervention du médié. Et si le médié, il dit, oui, mais à sa femme, mais de toute façon, t'es une grande salope, pardon, hein, mais des fois, c'est très violent, ben, le médiateur, il va dire, dites que votre, avec le même ton, ah, votre femme est une grande salope. Et là, souvent, les personnes entendent seulement ce qu'ils disent. Hein, parce que les personnes qui sont fâchées, qui sont énervées, qui sont en émotion, souvent ils ne s'entendent pas parler et ils n'entendent pas comment ils parlent et ce qu'ils disent.
Alors, tout
Et
ce que
donc,
j'ai déjà entendu dans les médiations, c'est effectivement. Alors, une fois, c'était dans une autre langue que je ne comprenais pas. Et c'est après, c'était monsieur qui disait ça à madame. Et c'est après la médiation, lui, il est vite parti, elle est restée, elle prenait ses affaires et tout. Elle m'a dit ce qu'il a dit. Et j'étais choqué, mais je
ouais.
pouvais pas réagir parce que je n'ai pas compris. Bah, j'aurais peut-être pu demander ce que ça veut dire, mais dans le feu de l'action, il sort quelques mots dans une autre langue. Ben, voilà.
Ouais. Après, ça dépend aussi de la réaction de la personne en face, hein, comment elle réagit par rapport à ça. Est-ce qu'elle va
Je crois
éclater
qu'elle
en
avait la
larmes?
non, je crois qu'elle avait l'habitude de l'entendre. En tout cas, elle n'a pas réagi. Elle n'avait pas l'air affectée du tout.
Voilà. Et si tu l'avais compris? Tu auras tout de suite rappelé en bon médiateur, monsieur, une des règles de la médiation, c'est que nous nous parlons respectueusement et tatati tatata. Ce que nous faisons pas en transformative, hein. Voilà.
Tout à fait.
C'est très
Ouais, c'est
intéressant.
passionnant. Et puis, on a aussi peut-être un autre mot, ce que les médiateurs connaissent bien, le tu-tu. Ça aussi, j'aime beaucoup, le tu-tu. Donc, un tu, il est souvent considéré comme une accusation. Enfin, évidemment, là, comme tu as dit avant, on ne va pas le rayer du langage, on en a besoin souvent. Mais s'il est utilisé dans le sens d'expliquer une situation, je dois expliquer ce que je fais moi, ou comment moi j'ai vécu une chose, et pas dire à l'autre ce qu'il a fait, parce que tu as été en retard, tu n'as pas respecté les règles, tu n'as pas ceci, ben l'autre, il reçoit flèche après flèche après flèche, c'est pas.
Ouais, c'est vrai, et c'est pour ça que nous rappelons quand même une des règles en médiation classique, pas transformative, aux personnes que de parler je. Très important. Il y a un autre petit volet aussi qui peut être intéressant, c'est les automatismes langagiers et les idioties, enfin, oui, les idioties ou les automatismes langagiers. Il y a des personnes qui commencent toutes leurs phrases avec ben, en fait là je te dis ou du coup hein.
Du coup, ouais.
Oui, et du coup encore en fait ces petits mots ça veut rien dire et ça montre quelque part que la personne ne sait pas trop ce qu'elle veut dire et qu'elle a besoin de réfléchir mais du coup ben, un coup reste un coup hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure hein, c'est qu'on met derrière un mot un coup de balai, un coup de téléphone, un coup de main, tout ça, c'est quand même aussi du coup. Et de dire toutes les 2 minutes, du coup, quelque
Je
part,
cherche.
c'est violent.
Oui, je cherche un petit truc que j'ai vu passer sur le réseau là-dessus. Voilà. Du coup, par quoi on peut dire, on peut le remplacer, on peut dire plus joli. Ils disent par exemple ainsi, donc, alors. soudainement, en conclusion, si je comprends bien, ce qui fait que qu'on sait comment. Enfin, tu as beaucoup d'expressions bien plus belles que du coup.
Oui, et parfois, de toute façon, les gens utilisent cette expression à la place, ils ne pourront rien dire du tout, parce que souvent, ça ne remplit même pas comment dire, le rôle des mots que tu viens de citer. Hein? C'est juste pour combler un vide. Et ben là, nous pouvons arriver au silence, le
Absolument.
silence en médiation. Comment réagissons-nous par rapport à des moments de silence? Est-ce que tu es à l'aise avec ça en médiation?
Oui, j'ai dû entraîner ça, mais oui, très à l'aise maintenant. Mais au début, pas du tout, parce que je dirais dans notre culture, je sais pas, occidentale, européenne, je sais pas, suisse, je sais même pas, mais on n'aime pas beaucoup. Enfin, on se dit, bon, oh, mince. Ah, non, je suis paniqué à chaque fois. Non, non, mais c'est... Donc, nous disons, nous n'aimons pas beaucoup le on, pardon, le silence. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je suis très à l'aise maintenant avec le silence. Parce que ça, c'est une opportunité à saisir, le silence. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, malgré que c'est une sorte de vide, si on veut, mais c'est un vide constructif. C'est-à-dire, c'est. Il y a une réflexion, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas un silence qui est vide. Un silence, il est rempli de, pas de mots, mais de plein d'autres choses.
Oui, parfois nous avons l'impression que les médias n'ont plus rien à se dire ou que.
Ah non.
Mais pendant un silence, c'est comme la musique
Ah non, il y a
n'existerait
de la fumée qui sort
pas.
partout pendant le silence, dans la tête.
Oui, mais c'est comme en musique, une pièce de musique, c'est finalement, ce sont les moments de silence qui font la pièce, hein, qui font la musique et qui font la chanson. Et je pense que comment tu t'es entraîné à être mieux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec ce moment de silence.
Pas vraiment particulièrement, je savais que c'est. J'ai lu ça, j'ai appris ça dans mes formations, donc je le savais intellectuellement. Après, émotionnellement, sur le coup, tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je dise quelque chose. Je crois que c'est une question de posture quand on dit, ah, mais c'est moi le responsable, c'est moi le processus. Donc là, il y a un vide, il n'y a rien, c'est à moi d'agir, de le remplir. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas d'un côté. Et puis après, c'est l'expérience. Donc, quelquefois, vraiment, j'ai dû vraiment me forcer pour moi aussi rien dire. Et c'est sûr que quelqu'un va commencer à parler. Parfois, ça prend quelques secondes, 10, parfois 20. Bon, 20, c'est déjà assez long, mais parfois, oui. Et le moment de silence, comme je disais, c'est important pour la réflexion. Et aussi, ce qui va sortir après le silence, c'est aussi important. Ça donne une direction, peut-être parfois une nouvelle direction. Donc, je me suis entraîné par la pratique, si tu veux, en faisant. Au début, j'ai dû me forcer. Et puis, quand tu fais deux, trois fois, tu vois que ça marche, bah là, tu dis, ah, super, quoi.
Oui,
T'as
c'est
plus besoin de forcer.
comme une découverte que la théorie que nous avons appris fonctionne vraiment.
C'est ça.
Hein.
C'est
Oui.
ça.
Ouais. Et il y a aussi quelque chose par rapport aux mots, mais là, je ne veux pas parler des mots, de mes mots que je choisis consciemment pour avoir une influence sur les réactions des milliers ou sur l'entourage, mais les mots que utilisent les médias. Déjà, bien sûr, il est important, je pense, de se synchroniser avec le vocabulaire et avec la façon de parler des médias, hein. Peut-être de utiliser les mêmes mots pour qu'ils entendent, que nous comprenons ce qu'ils disent,
Pour créer un rapport, en
même
fait.
pour créer le rapport. Mais j'ai remarqué aussi, et pas seulement dans des médiations, mais aussi dans des entretiens, parfois avec des personnes qui ont des conflits ou des problèmes, Lorsque dans une discussion ou dans un entretien, il y a pour la troisième ou quatrième fois la même expression et le même mot qui revient, non? Que là, il y a quelque chose, même si on parle d'autre chose, mais si cette expression ou ce terme ou ce mot y revient, la plupart du temps, le problème, le nœud de la chose, est autour de cette expression ou de ce mot qui exprime un besoin ou quelque chose qui n'est pas reconnu.
Là, tu réagirais comment si quelqu'un dit pour la troisième fois de suite, je sais pas, le mot liberté?
Ben, je dirais, écoute ou écoutez, j'ai entendu plusieurs fois que vous avez utilisé le terme liberté, que vous parlez de la liberté, à quel point c'est important la liberté pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme liberté? Qu'est-ce que la liberté signifie pour vous?
Oui.
Ok, parce que parfois les gens sont même pas conscients que ça revient
C'est important
eux-mêmes.
ce que tu laisses d'exemple. Oui. C'est récurrent, c'est que c'est important.
Et souvent en médiation, souvent dans des entretiens et des conflits, il y a quelque chose qui revient, même si la personne parle d'autre chose. Et quand on commence à creuser là, quand le médiateur ou l'interlocuteur commence à creuser autour de ce thème, c'est là qu'on commence à aller en dessous de l'iceberg.
C'est ça.
Voilà. Donc,
Ouais. Il y a aussi, c'est une petite parenthèse, mais tu as appris ça sous le nom de pacing. Moi, ça, c'est de l'anglais, bien sûr. Pacing, c'est une sorte de donner le rythme. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Mais pacing en allemand, donc le pace, c'est le rythme, si on veut, ou la vitesse. Et c'est bah, ça, c'est pas tellement. Ça, on peut aussi imaginer avec les mots, mais je pense que c'est ce que tu appelles synchronisation verbale. Si on utilise ça pour des mouvements. Et alors, j'ai pu essayer. Parfois, ça marche. Alors, c'est assez particulier, mais en fait, comment dire, tu crées un rapport, tu crées un pacing avec l'autre. C'est-à-dire, d'abord, tu répètes ces mouvements. Si par exemple, toi, tu es là comme ça, moi aussi, je vais aller là comme ça. Il ne faut pas que ça fasse un peu ridicule, il faut que ça soit un peu inconscient, etc. Et puis l'autre après il bouge, toi tu bouges, et ça veut dire que tu suis le rythme. Et à un certain moment, après peut-être 3-4 mouvements que tu as suivis, tu peux prendre le lead. Puis après tu fais toi une posture, l'autre il va suivre. Et ça marche relativement souvent. Et là, juste l'avantage, c'est que ça crée aussi un rapport donc par le mouvement. Et le rapport, pourquoi c'est important? Pour que la personne, ça crée une confiance. Et en tant que médiateur, médiatrice, on a besoin de confiance. Pour moi, c'est vraiment parmi les bases fondamentales. Et ça crée une confiance.
Oui, je crois que ça, en français, on parle de synchronisation non verbale.
Ah, ok, verbal, non
Non,
verbal. Ok,
il y a le
ouais.
verbal,
Ouais.
c'est-à-dire la personne par. Ben, je crois que ça va avec nos neurones miroirs, n'est-ce pas, que nous avons ici et qui font que quand quelqu'un nous sourit, nous sourions, quand
Ah ouais.
quelqu'un bâille, nous bâillons. Nous sommes toujours en action-réaction par rapport à l'autre, hein. Que ce soit au niveau de l'expression du visage, que ce soit par notre comportement. Et il y a toujours un qui se cale plus facilement sur l'autre, hein. Alors, oui, quand je sais comment c'est super intéressant parce que quand je sais que ça existe et comment ça fonctionne, je peux l'utiliser consciemment, c'est-à-dire je vais pas me laisser entraîner par la personne en face de moi qui est en colère ou qui n'est pas content, je vais pas le laisser réjaillir sur moi émotionnellement, mais je vais rester dans une réaction opposée pour quelque part le forcer lui à se caler à moi. C'est ce que tu dis un peu par rapport au mouvement.
Puis là, on entend souvent le mot manipulation quand on parle de ça, mais je sais pas comment tu vois toi.
Bah, je sais que, par exemple, les commerciaux, hein, et quand les personnes qui font un travail commercial, ils utilisent toutes ces techniques-là. Non, c'est c'est le comportement humain est aujourd'hui tellement, tellement étudié. Oui, bien, on voit bien que tout le marketing, que toute la publicité, tout ça, ça on parle de neuromarketing, ça veut dire qu'ils étudient les façons de réagir des êtres humains pour mieux nous atteindre émotionnellement, pour nous faire acheter tel et tel produit. Dans la vie de tous les jours, oui, c'est aussi une sorte de manipulation, mais je pense que si c'est utiliser consciemment des techniques pour amener à des situations d'apaisement et apaiser, c'est pour la bonne cause.
Oui, c'est ce
C'est
que, en fait, je viens de te penser exactement ça. Si c'est pour te faire acheter un truc que tu veux pas, là, c'est de la manipulation. Si c'est pour
Mais
créer une confiance que tu as besoin dans une médiation, ça sera pas de la manipulation.
c'est peut-être aussi de la manipulation, mais elle est dans un but. Je
Oui.
regarde, c'est des outils, c'est un peu comme un marteau. Je veux dire, je peux prendre le marteau pour mettre un clou dans le mur et je peux prendre le marteau pour assommer ou tuer quelqu'un.
Oui.
Hein?
Il y a aussi,
C'est.
je viens de penser à ça encore, c'est l'ancrage. En négociation et évidemment en médiation aussi. L'ancrage, c'est que souvent autour des chiffres, s'il faut fixer un montant, un prix ou quelque chose, c'est que le montant qui sort le premier donne la direction, ça donne une marche, ça donne. Et ça marche vraiment. Ça veut dire là, tu donnes une sorte de limite, tu donnes une sorte de référence. Et j'étais frappé, c'est à la fin que j'ai pigé. J'étais avec ma femme dans un magasin. Et c'était à Marrakech, un petit magasin ils ont des tableaux. Et quand on rentre, déjà, il était fort, le vendeur. Il a compris que c'est elle, c'est pas moi qui s'intéresse. Enfin, je m'intéresse aussi au tableau, mais j'allais rien acheter, moi. Et ça, je pense, il a tout de suite vu. Et donc, il a commencé à papoter avec ma femme. Et puis, très rapidement, il a dit, ah, vous savez, aujourd'hui, j'avais deux clients qui m'ont acheté à 400 dirhams. Et ma femme, elle a acheté trois petits tableaux à...
100 dirhams.
Non, ouais, 4 à 100, voilà, 400 dirhams au total. Voilà. Et on est sorti, je dis, mince, en fait, tu as été ancré, quoi. On dit, t'as ancré. Voilà.
Oui, ça, c'est des techniques. Attends, je regarde si j'ai mon livre sur la table que je peux vraiment conseiller à lire parce que. J'en ai parlé dans Intermédiaire. C'est le livre, je sais pas si tu le vois là, Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Foss. Tu le connais?
Donc, pas de compromis, mais plutôt du win-win. C'est dans ce sens-là, j'imagine.
Ben disons que il était négociateur au FBI pendant 25 ans. Il a négocié des libérations d'otages dans le monde entier. Et il dit entre votre gamin de 14 ans qui veut sortir et un preneur d'otages ou un bébé qui veut des bonbons, il n'y a pas de différence. Et il explique extrêmement bien tous nos outils de communication, la réformulation, l'écoute active, l'écoute, la voix, etc. Ce livre, je le trouve vraiment passionnant pour nous, médiateurs. Il est facile à lire, il est amusant. Et on peut le télécharger gratuitement sur Internet si vous
Ah.
cherchez coupez jamais la poire en deux PDF.
Ça reste légal,
Bah,
j'espère.
je sais
Bah.
pas, mais je
Bah.
suis tombée là-dessus sans chercher. C'était en première
On le
ligne.
trouve.
On le trouve, mais je l'ai acheté quand même. Hein, je l'ai
Oui,
téléchargé.
j'ai vu, j'ai
Mais
vu, j'ai vu.
je fais partie des gens qui ont besoin de gribouiller, là, de mettre des roses et
Ah
tout.
ouais.
Pour ancrer les choses dans ma tête. Donc, ça n'empêche pas après
C'est tactile.
de l'acheter et de voilà. Ça, c'est vraiment une mine d'or parce qu'il parle aussi de la voix, l'importance de la voix. Il dit il faut utiliser la voix on appelle ça, les gens qui parlent à la radio la nuit. Vous
Ah
rappelez
oui.
là les gens qui pendant entre minuit et 5 heures du matin accompagnaient les routards, les gens qui étaient sur la route, les camionneurs, etc. avec une voix très
Oh, pas que, hein, il y en a beaucoup, beaucoup qui écoutent ça.
sensuelle et très très apaisante, etc. Ta
Connais, tu
ta
connais
ta.
en Allemagne Domian?
C'est comme les mots.
En Allemagne, il
Je
y a
connais qui?
Domian. Je crois Domian,
Mmh.
tu connais pas?
Non.
Ben, il fait ça en Allemagne, il peut... Là, il a arrêté, je crois. Mais souvent,
Mmh.
certainement, je suis tombé là-dessus par hasard. Et puis, et les gens appellent avec plein de soucis, de plein de trucs. Et puis, le problème,
Ouais.
c'est facile.
La voix, elle peut apaiser, créer la confiance aussi, hein, et voilà, c'est la voix, les mots, les termes que nous utilisons, c'est tout un ensemble, hein, c'est merveilleux, moi, c'est un monde sans fin, et
Chez nous,
voilà.
c'est Jean-Marc Richard qui fait ça. Chez vous, vous avez qui en France, tu connais?
Ben non. De toute façon, j'ai beaucoup de mal avec les noms. J'oublie toujours les noms des personnes et ce qu'ils font. Mais je sais, il y avait une dame qui a fait ça pendant de très longues années sur, je sais plus si c'était France Inter. Mais bon, je me souviens pas du nom et il y en a certainement un certain nombre qui le
Ouais,
font.
il y en a plusieurs de toute façon. Ouais.
Voilà.
Super, super, super. Bah, écoute, on a plus ou moins fait le tour. Si les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ont des questions supplémentaires, ils peuvent toujours mettre des commentaires en bas. Comme ça, on sera là pour aussi répondre s'il y a
Oui, avec
quelque chose.
plaisir, hein. Ça, c'est vraiment, c'est mon dada.
Oui, en plus, on a une véritable experte avec toi, qu'il faut profiter. Et oui, je crois que je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Est-ce qu'on a terminé
On a terminé.
ou pas?
Nous avons terminé, oui. Le fait de dire je et nous. Ça donne aussi une impression d'être plus sûr de soi.
Oui.
Ça veut dire que les personnes qui nous entendent dire je et nous et affirmer les choses nous prennent plus pour des personnes compétentes dans la matière dont nous parlons. Voilà. C'est une impression. Peut-être que ce n'est pas vrai. Ça peut aussi être de la manipulation. Mais si je veux me donner un air confiant, rassurant, sûr de moi, j'ai intérêt à parler je et nous au lieu de dire, oh bah oui, on fait ceci, on fait
Oui,
cela, non,
c'est une
non.
personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, tout à
Et
fait.
c'est intéressant de regarder les politiques quand ils font leur speech lors des présidentielles ou là actuellement les européennes et tout. Observer les hommes politiques, comment ils parlent. Est-ce qu'ils utilisent je et nous ou est-ce qu'ils disent on? Est-ce qu'ils font du wischiwaschi, comme on dit en allemand? Ou est-ce qu'ils sont clairs et précis dans leurs phrases, dans leurs termes, dans leurs idées? Très intéressant.
Je vais tenter une réponse, c'est que quand c'est pour présenter un succès, c'est je. Quand c'est pour éviter un sujet, c'est on.
Manipulation.
Adaptation politique. Ouais. Ouais. Ah, il y a d'ailleurs. Alors, ça s'appelle Discours langue de bois. C'est une fiche qui circule sur Internet. On trouve ça facilement. Je crois que c'est l'INSEE chez vous, non? Comment s'appelle l'université là d'élite? Comme
Sciences
ça.
Po
Oh, je sais
Sciences
plus.
Science Po ou l'ENA ou ces grandes
Ou
écoles, oui.
l'ENA, c'est peut-être l'ENA. En tout cas,
Ouais.
si on cherche langue de bois, discours politique, on trouve ça facilement. C'est un tableau. Il y a 4 ou 5 colonnes et tu peux librement composer. Ça veut dire que il y a chaque fois 2, 3 mots, tu prends de cette colonne-là, tout en haut, après tu prends milieu quelque part, après de nouveau en haut ou en bas, où tu veux. Tu passes par les 4 colonnes et comme ça, tu peux te construire un discours. Tu prends la feuille, tu lis. Et ça, pour rigoler, j'ai
Ça.
fait ça une fois quelque part, une assez grande audience. En fait, tu peux parler comme ça 10 minutes sans rien dire, mais
Ça
ça a
fait des
l'air.
phrases qui ont l'air hyper intelligentes et
Oui.
approfondies. En fait, c'est ça veut rien dire du tout.
Oui.
T'as raison. Je vais la repêcher pour mes formations. Justement, c'est très intéressant.
Bah, super, merci beaucoup, Christelle.
Merci à toi, Pascal. C'est toujours un plaisir de te retrouver et de parler autour de
Partagez.
ces thématiques-là. Merci
Partagez.
beaucoup.
Merci à toi et à la prochaine.
À la prochaine, Pascal. Au
Ciao, ciao.
revoir.